Madame, Monsieur, bonjour, il est 13h, vous êtes bien sur 48FM. Eléa Schillaci vous présente le programme de cette émission. Bonjour Eléa.
Bonjour à tous. Dans les titres aujourd'hui, Saint-Nicolas est vénère et les membres du personnel de l'enseignement aussi. Voilà le slogan de la CSC Liège, Huy et Verviers. Le syndicat compte entamer des actions dès ce mercredi. Nous nous intéresserons à l'impact sur votre journée de demain. Des suites dans l'affaire du théâtre de l'Aléna. Le directeur accusé de harcèlement moral et sexuel est écarté le temps des démarches judiciaires. On fait le point. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, nous recevons en plateau Joël Matriche, journaliste au Soir, qui a enquêté sur des soupçons de corruption à l'OTAN. Des perturbations sont à prévoir demain à Liège. Les enseignants soutenus par les syndicats descendront dans la rue pour une parade de Saint-Nicolas pas comme les autres. Oriane Mauss a contacté la CSC.
Un Saint-Nicolas en colère qui délaisse les enfants sages pour distribuer des cadeaux fiscaux aux entreprises. Le cortège débutera de l'esplanade Saint-Léonard à 13h pour s'arrêter place Saint-Lambert. Le circuit de 2h suivra la rue Hors-Château, un choix symbolique, affirme Isabelle Buchelot, membre de la CSC.
Dans la rue Hors-Château, il y a pas mal d'écoles, donc c'est aussi une symbolique. Je veux dire, l'idée, c'est pas d'embêter les gens en bloquant la circulation. L'idée, c'est vraiment d'avoir une action visuelle qui fasse prendre conscience aux gens qui ne sont pas dans l'école, de toutes les conséquences que ces mesures sur l'école vont avoir sur l'enseignement de manière générale et donc sur leurs enfants finalement.
Les enseignants continuent leurs actions pour s'opposer au projet budgétaire du gouvernement MR engagé.
Tout ce qui concerne les enseignants, les attaques sur les fins de carrière, ce qui est aussi financier pour les parents, la gratuité scolaire qui passe à la trappe, le Minerval qui augmente aussi bien pour le supérieur et puis pour l'accès à la culture de manière générale, aux académies pour les enfants de moins de 12 ans. Il n'y a pas, je ne vois pas une mesure dans ces deux avant-projets de décret sur laquelle on pourrait dire « Ah ben oui, ça, on peut comprendre que ça va avoir un effet bénéfique dans l'enseignement. »
Les débats sur le budget 2026 ont démarré hier soir au Parlement de la communauté germanophone à Eupen. Pendant plusieurs heures, les partis ont passé en revue les grands dossiers « Finances, énergie, aménagement du territoire ou encore développement durable ». Sans surprise, l'opposition a été très critique. Le groupe Vivant a tiré la sonnette d'alarme sur l'endettement qui continue à augmenter. Les socialistes, eux, dénoncent le manque de dialogue avec les syndicats et Écolo estime que la situation financière actuelle n'est pas due aux crises, mais bien aux choix successifs des gouvernements. Les discussions reprendront ce soir et demain. Le vote est prévu à l'issue de cette série de séances. Des suites de l'enquête du théâtre de l'Aléna à Sclessin. Pour rappel, le directeur Alain Beaufort est visé par des accusations de harcèlement moral et sexuel. D'après la RTBF, il aurait été écarté le temps des démarches judiciaires. Un pas de côté notoire, mais pas encore suffisant pour les victimes. Valentin Yourouk a rencontré Fabienne, prénom d'emprunt.
Moi, je trouve que c'est très bien parce que grâce à ça, ça permet au moins aux anciennes victimes qui n'osaient pas parler de témoigner elles aussi. Parce que moi, je connais beaucoup de victimes, que ce soit d'agression sexuelle, de harcèlement moral ou voire plus grave, qui, pour certaines, ont porté plainte. Mais il y en a très peu qui osaient parce qu'elles avaient peur de leur réputation, elles avaient peur d'être toutes seules, elles avaient peur de ne pas être crues.
Et justement, vous avez peur que, malgré cette enquête, elle n'est pas le poids suffisant pour l'écarter définitivement justement des planches de théâtre.
Et j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne et que les gens vont réagir vraiment. Oui, il n'est plus présent au château, mais il joue encore sur les planches, de un. Et ensuite, bien sûr qu'il est encore là derrière parce que tout le CA repose sur lui et toutes les deux structures sont totalement dirigées par lui. Donc, il est là sans être là, donc c'est vraiment de la poudre aux yeux.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption. L'occasion de revenir sur une enquête parue hier et toujours en cours du Soir. Emilio Carvajal, il s'agit de soupçons de corruption à l'OTAN.
Alors oui, exactement. J'ai décidé de me pencher sur une affaire qui a commencé le 14 mai 2025. Le parquet fédéral explique dans un communiqué de presse que dans le cadre d'une affaire portée devant le parquet fédéral concernant l'appartenance à une organisation criminelle, la corruption active et passive et le blanchiment d'argent, le service central de la lutte contre la corruption de la police fédérale a mené des perquisitions à Brendeneu, en Flandre occidentale, en mai dernier. Ces perquisitions avaient été ordonnées par un juge d'instruction flamand de Bruges, chez un habitant. Joël Matriche, bonjour. Vous êtes journaliste au Pôle Enquête du Soir. De quel type de corruption est soupçonné cet individu ?
Bonjour. Juste un tout petit peu de contexte. Donc, le dossier est centré sur l'ANSPA, tourne autour de l'ANSPA, qui est une agence, un département, en quelque sorte, de l'OTAN, qui est chargé d'approvisionner des gouvernements membres ou bien l'Alliance elle-même, l'OTAN elle-même, en armement. Et donc, c'est surtout depuis 2022, donc depuis le début de la guerre en Ukraine, on parle ici de sommes qui sont considérables. Ce qui est soupçonné, c'est que ce soit formé des sortes de triangles amoureux constitués d'une part de consultants, comme le monsieur qui s'est fait arrêter en Flandre, de professionnels de l'armement, donc de fabricants ou de revendeurs d'armement, et d'autre part, d'agents de cette agence, de l'ANSPA, qui sont chargés, en quelque sorte, de rédiger les cahiers des charges. Donc, nous avons besoin d'obus de 150 mm, etc. Et les entreprises peuvent candidater. Et donc, plus précisément, cet agent est soupçonné d'avoir, ce consultant, qui était interpellé, est soupçonné d'avoir, au bénéfice de quelques-uns de ses clients, qui sont des entreprises privées, de s'être arrangé avec des agents, des employés de l'NSPA, pour connaître un petit peu à l'avance les cahiers des charges et donner ainsi un avantage concurrentiel à ses clients directs.
Et quelques mois plus tard, alors le 30 septembre, votre rédaction ainsi que celle de la lettre Follow de Moni et Knack apprenait qu'un jour un juge d'instruction de Flandre occidentale a émis un mandat d'arrêt par défaut ainsi qu'un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'un homme d'affaires et consultant de nationalité italienne. Le parquet fédéral confirme mais précise ne pas vouloir s'étendre sur l'affaire. Quelles sont alors les démarches que vont entamer votre rédaction et ses partenaires pour en apprendre un peu plus, pour creuser sur cette affaire, et quelles informations alors récoltez-vous ?
Donc l'article que vous mentionnez, qui a été fait en équipe, une enquête collaborative est paru hier, c'était le troisième sur ce dossier judiciaire. Ce dont on s'est aperçu rapidement, c'était un dossier international. Donc il y a ce consultant flamand, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont été inquiétées, recherchées, arrêtées, que ce soit en Roumanie, aux États-Unis, etc., dans plusieurs pays. Et donc maintenant, nous, on continue, on essaye de voir quelle est l'étendue de ce potentiel réseau de corruption. Est-ce que tous les maillons, est-ce que tous les triangles amoureux dont j'ai parlé tout à l'heure se connaissent ? Est-ce qu'ils agissaient de concert ou est-ce que c'était des initiatives isolées ? Qui a rendu possible et même souhaitable dans leur chef la guerre en Ukraine. Et donc voilà, on continue, on essaye, là vous parliez d'un consultant de nationalité italienne dont on nous a dit qu'il pourrait voyager avec des faux passeports, il n'a quasiment pas laissé trace en ligne, donc on essaye justement par exemple de remonter sa trace, d'essayer de l'identifier, son parcours et peut-être de le localiser, en tout cas d'en apprendre plus et de dresser son CV.
On apprend aussi dans l'enquête qu'il y a un groupe israélien, Elbit Systems. Pour rappel, il pèse près de 7 milliards de dollars, emploie 20 000 personnes et est coté à la bourse de Tel Aviv. Elbit est l'entreprise d'armement numéro 1 dans son pays, un géant dont plusieurs contrats, la livraison de charges propulsives pour des obus de 155 mm, vous en parliez, et des leurres antimissiles notamment. Votre rédaction, pour rappel, Le Soir et ses partenaires ont appris que le groupe israélien a été suspendu par la NSPA dans l'attente de la fin de l'enquête. Que risque concrètement alors ce groupe, Elbit Systems, et si les soupçons s'avèrent corrects, ce groupe si les soupçons s'avèrent corrects, et où en est alors l'enquête à l'heure actuelle ?
Les deux questions sont liées. Ce qui n'est pas encore très clair pour le moment, c'est... Pour autant qu'une responsabilité est établie, est-ce que celle d'Elbit Systems proprement dit, qui affirme n'avoir jamais rien commis d'illégal, d'avoir les plus hauts standards de diligence, etc., ou est-ce que c'est celle de ce consultant qui aurait peut-être trahi lui-même son client, donc à savoir Elbit Systems. Son consultant, visiblement, il travaille aussi pour plusieurs sociétés. Et donc voilà, l'enquête, elle continue. Le risque immédiat, c'est que Elbit Systems ne peut perdre des contrats. C'est une boîte qui est immense, qui pèse près de 8 milliards de dollars, qui travaille notamment avec le Pentagone, etc. mais aussi, même si c'est d'une façon un petit peu marginale, avec la NSPA, donc avec l'OTAN. Donc le risque, c'est qu'elle perde des contrats. Et puis, le cas échéant, s'il devait se vérifier qu'ils sont coupables de quelque chose, que la société elle-même soit suspectée, voire inculpée. Mais on n'en est pas du tout là, mais l'enquête se poursuit.
Eh bien, merci Joël Matrice d'être venu sur place donc, pour nous expliquer cette enquête. Pour rappel, donc, l'enquête est bien toujours en cours et ni l'OTAN ni la NSPA ont décidé de répondre aux sollicitations de la rédaction du Soir. Quant au groupe israélien Elbit Systems, il ne commente pas le fond de l'affaire et dément être suspendu par l'OTAN ou la NSPA.
Merci Emilio. Toujours dans l'actualité internationale, à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a rencontré ce mardi les dirigeants de l'OTAN et de l'Union européenne pour faire le point sur les perspectives d'un accord de paix. Les discussions ont porté sur le rôle clé des États-Unis dans le processus diplomatique et sur la nécessité de garantir une paix qui respecte pleinement la souveraineté ukrainienne. Les responsables européens et de l'Alliance Atlantique se sont accordés sur la nécessité d'inscrire une date claire d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dans le document stratégique en préparation. La question des garanties de sécurité a également été centrale, alors que l'armée ukrainienne décrit une situation toujours plus tendue sur l'ensemble de la ligne de front. Enfin, les partenaires ont confirmé le renforcement de l'aide militaire, y compris via l'initiative PURL, qui dépasse désormais les 4 milliards de dollars, avec un accent particulier sur la défense antiaérienne. On passe au football. À 21h, l'Union Saint-Gilloise recevra l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, Valentin.
En effet, Léa, l'Union Saint-Gilloise accueillera au stade d'Anderlecht l'Olympique de Marseille pour la 6e journée de la phase de Ligue. Un match d'une importance capitale pour les unionistes, actuellement 25e avec 6 points. Alors il leur reste 3 matchs pour rejoindre le top 24 et donc participer aux phases finales de cette Ligue des Champions.
Alors, cette Union OM, c'est un match un peu particulier pour ces deux clubs ?
Ah ouais, tout à fait. Pour la petite anecdote, le premier match en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille, eh bien, c'était en 1962 contre l'Union Saint-Gilloise. Match qui leur avait plutôt bien réussi, pour les unionistes en tout cas, puisqu'ils avaient éliminé l'équipe phocéenne.
La Coupe du Monde, c'est pour bientôt. On le rappelle, elle se déroulera au Mexique, Canada et États-Unis. Ce matin, la FIFA a annoncé que les matchs seraient entrecoupés par des cartons, Valentin.
Ouais, les rencontres seront inspirées de la NBA un petit peu, avec une pause par mi-temps. Ces cartons serviront aux joueurs de pause fraîcheur de 3 minutes. Et comme en NBA, la FIFA semble aussi vouloir diffuser de la publicité lorsque les joueurs se rafraîchiront.
Merci Valentin, c'est déjà la fin de ce journal. Merci pour votre écoute et rendez-vous demain à 13h.